sont des choses qu'ils savent, mais sur des choses qu'il est bon de revenir. Nous lisons deux textes particulièrement bien connus. Matthieu chapitre 28, verset 16. Ils vont s'afficher pour ceux qui n'ont pas de Bible. Nous avons procédé à des baptêmes, vous avez vu des baptêmes, mais je voudrais parler aussi dessus. Matthieu chapitre 28, verset 16. Les quatre derniers versets de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Marc, chapitre 16, verset 15. On lit simplement les deux versets. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus donne la feuille de route à l'Église naissante. On a deux versions de cette feuille de route. Les choses sont dites un petit peu différemment, mais chaque fois dedans, il est question du baptême. Le fait de faire des baptêmes à l'occasion d'un culte, c'est pour moi l'occasion de parler dessus. Et je voudrais partir de ce qu'il n'est pas pour arriver à ce qu'il est. J'aime bien faire comme ça et souvent ça m'aide à bien comprendre les choses. Et la première chose que je voudrais dire, c'est une évidence, mais c'est bien de le dire, le baptême n'est pas une option. Jésus n'a pas présenté le baptême comme une option. Il a dit, faites en les baptisant celui qui croira et qui sera baptisé. Jésus ne parle pas au conditionnel, et c'est un ordre. C'est une mission qui est donnée. Lorsque Pierre, à la Pentecôte, a prêché l'Évangile, et que l'auditoire qui était présent a eu le cœur vivement touché, quel sera l'appel de l'apôtre Pierre ? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés. Immédiatement, il a amené sur le terrain de la repentance, de la foi, puis du baptême. Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que le baptême, c'est la norme. Tous les chrétiens, tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, se font baptiser. On observe cela dans Actes 8, lorsque l'évangile est prêché en Samarie, les Samaritains, lorsqu'ils croient, ensuite, ils sont baptisés. Dans la maison de Corneille, cet homme qui était romain, lorsqu'il a cru, il a été baptisé. Ça a été vrai pour l'apôtre Paul, dans Actes 9. Et puis ensuite, on le voit dans Actes 16, avec le geôlier, où Lydie, la première chrétienne d'Europe. Et puis on le voit dans Actes 19. Alors, ce n'est pas toujours mentionné à chaque conversion, parce que ça alourdirait le récit, mais c'est une évidence. Le baptême dans le livre des Actes, c'est la norme. Tous les chrétiens se font baptiser. Ce que je dis là, nous le savons tous. Mais je le dis dans un contexte où même dans le monde évangélique, le baptême n'est pas toujours exigé. Hein. Et c'est bien de le dire. Vouloir être disciple de Jésus-Christ sans le baptême, c'est un peu comme vouloir faire du concubinage avec Jésus. Non. Et d'ailleurs, la comparaison entre le mariage et le baptême, elle est riche. En commençant par la notion d'alliance, qui est importante. Le baptême, c'est un fondement. Quand vous lisez Hébreux chapitre 6, verset 1er, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de revenir au fondement de la foi. Et l'un des fondements qui est mentionné, la doctrine des baptêmes. Dans les baptêmes, on mettra le baptême dans le Saint-Esprit, mais on mettra d'abord le baptême d'eau, dans l'ordre des choses, bien évidemment. Le baptême, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qui ? Est-ce que c'est nécessaire pour Dieu ? Oui et non. Ce n'est pas nécessaire pour Dieu pour reconnaître ses enfants. Lui, il regarde au cœur. Et il sait très bien si quelqu'un a donné sa vie à Jésus ou ne lui a pas donné. À ce niveau-là, il n'y en a pas besoin. Mais le baptême est quand même nécessaire pour Dieu, parce que c'est comme la signature d'un contrat ou d'une alliance. Si vous signez un contrat avec un autre, avec un avocat ou un assureur, il pourra intervenir parce que vous avez signé. Mais sinon, il ne pourra pas intervenir. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est comme un contrat signé où on permet à Dieu d'intervenir. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est le meilleur des assureurs et c'est le meilleur des avocats. Mais le baptême est surtout nécessaire pour celui qui se fait baptiser. Le baptême scelle notre appartenance à Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le sceau de l'appartenance à Dieu, c'était la circoncision. Et dans le Nouveau Testament, ce qui marque l'appartenance à Jésus-Christ, c'est le baptême. Retenez toujours cette notion d'appartenance et de contrat. Mais je voudrais dire aussi ceci. Le baptême d'eau, il est important pour qui ? Il est important pour l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il marque et il signifie publiquement l'entrée du nouveau croyant dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous voyons que des baptêmes qui sont publics, devant témoins, comme le mariage, à nouveau, toujours. Même la conversion, le baptême de l'eunuque éthiopien, c'est devant témoins. J'ai du mal à penser qu'il voyageait tout seul, c'était un ministre. Il y avait des témoins, mais toujours il y a beaucoup de témoins. Et la Bible parle même de confession de foi à ce moment-là, lorsque Paul écrit à Timothée, par exemple. C'est important de le dire à une époque où des fois c'est un petit peu l'anarchie, où des fois certaines personnes aimeraient baptiser sans témoin. Non, c'est important, c'est une prise de position. Je dis désormais, Christ est mon sauveur. Et je crois que c'est bien de le rappeler. Je ne m'attarde pas trop sur ce point-là, il est évident. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le baptême ne sauve pas. Il n'est pas un sacrement. Par définition, un sacrement, c'est un rite qui produit une grâce, qui communique une grâce. Il a comme une valeur d'efficacité, de magique, si je peux aller jusque-là. Le sacrement du baptême transformerait la personne en chrétien, c'est faux. Ce n'est pas le baptême qui va transformer la personne en chrétien. C'est l'expérience de la foi au préalable. C'est la rencontre avec Jésus qui va faire de nous un chrétien. C'est ça qui... Et concevoir le baptême comme quelque chose de magique, on est déjà sur un terrain superstitieux. Hein. D'ailleurs, c'est une tentation pour nous chrétiens d'aborder des fois tous ces rites, comme le baptême ou comme la scène ou l'onction d'huile, avec une approche superstitieuse. Ces choses n'ont aucune valeur en soi. Mais ce qui est important, c'est le message qu'il y a. C'est la foi dans le message que communiquent ces symboles. Mais le baptême, c'est un acte symbolique. Le baptême ne sauve pas, mais il atteste le salut, ou il doit attester le salut. Lorsque souvent les personnes veulent se faire baptiser, je leur pose cette question et des fois ça les désarçonne. J'ai désarçonné comme ça Adrien, est-ce que tu es sauvé ? Et souvent j'insiste, si tu traverses la rue, tu le fais renverser, tu vas où ? Je me rappelle qu'il avait été désarçonné par cette question, mais après il a pu répondre aussi. Et c'est ça qui est important, c'est parce que le salut est là et que l'on va s'engager avec Jésus-Christ. Il atteste que la personne a expérimenté le salut et qu'elle est devenue une nouvelle créature. Quelques remarques par rapport à cette réalité. Bien évidemment, ça veut dire que le baptême doit être précédé de la foi et pas l'inverse. Il doit être précédé de la repentance et pas l'inverse. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand je dis qu'il atteste le salut, malheureusement, il faudrait préciser qu'il doit attester le salut. Parce que l'on peut se tromper. Si on baptise quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas expérimenté le salut dans son cœur, le baptême ne va pas faire de lui un chrétien. Mais c'est... Et des fois, aujourd'hui, on peut se tromper. Il y a une tendance, aujourd'hui, dans les églises évangéliques, à baptiser un peu vite. Et si on baptise quelqu'un qui n'est pas né nouveau, son baptême, non seulement il ne sert à rien, mais en plus il peut le tromper. Parce qu'il peut lui faire penser qu'il est devenu chrétien alors qu'il n'a pas expérimenté la vie nouvelle dans son cœur. Je dis aussi que le baptême ne sauve pas. Par contre, le refus de s'engager remet en cause le salut. Il y a quelques années, on recevait un pasteur qui nous avait parlé pendant une semaine sur le retour de Jésus. Tous les soirs, c'était une étude biblique, c'était très intéressant. Je me rappelle un soir, à un moment donné, il est parti en parlant sur le baptême. Et je me suis dit, il déraille ou quoi? Et puis, j'ai vu que c'était tellement précis, j'ai compris que c'était une parole de sagesse qu'il était en train de donner. Il ne connaissait pas la situation. Alors moi, j'avais l'auditoire du début de réunion dans ma tête, et tous ceux que j'avais vus rentrer n'étaient pas concernés par le baptême. Ils étaient déjà baptisés. Mais je me suis dit, il y a quelqu'un qui a dû rentrer et qui est concerné par ce sujet. Et effectivement, à la fin de la réunion, quand je me suis tourné, il y avait une personne, ça faisait plus de 30 ans qu'elle venait à l'église. Elle toujours avait refusé le baptême. Et je me suis dit, là, le Seigneur lui a parlé, il a tout compris. Et quand je suis allé le voir, je n'étais pas encore arrivé que j'entendais dire, le brigand sur la croix ne s'est pas fait baptiser. J'ai dit, oh. Je me suis dit, cet homme, il refuse le salut. Il est en train de se perdre. C'était une forme d'endurcissement. Le baptême ne sauve pas, mais le refus du baptême remet en cause le salut. Le baptême, il n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est important. Dans la feuille de route que Jésus a donnée, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, quel est l'objectif? Quand Jésus dit, allez par tout le monde, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quel est l'objectif? Jésus ne dit pas, faites des baptêmes en faisant des disciples. Et il dit, faites des disciples en les baptisant. L'objectif n'est pas le baptême. L'objectif, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Et le baptême rentre dans ce processus-là, dans cet objectif-là. Je pense à un autre texte qui parfois a été interprété de certaines manières. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, un texte d'ailleurs qu'Adrien a cité en partie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Séphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Paul dit, et ça pourrait étonner, dit « Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé personne. » Il est important de comprendre qu'il parle dans une église où les chrétiens ne s'entendent pas, ils sont divisés. Et c'est dans ce contexte où il dit cela, ce qu'il veut dire c'est quoi? Il veut dire que, finalement, il veut dire dans ce contexte, c'est bien que je n'ai baptisé personne, car cela limitera le nombre de personnes qui se revendiquent de moi. Parce que chacun disait, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, et c'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et puis derrière, il dit, ce n'est pas pour baptiser. Et quand il dit ceci, il veut dire que le baptême n'est pas un but en soi. Le but, c'est de sauver les pécheurs et c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. C'est ça hein, qu'il veut dire. Mais j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait, vous voyez que le baptême n'est pas obligatoire. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que ce n'est pas un but en soi et que l'objectif, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Quelques conséquences pratiques par rapport à ce que je dis là. Nous avons vu, et nous faisons attention à l'arbre en baptême. Il faut absolument que la personne soit née de nouveau, qu'elle ait reçu Jésus-Christ dans son Sauveur. Mais l'après-baptême est important. Malheureusement, dans nos églises évangéliques, on a baptisé des fois des personnes, et au bout d'un an, elles ont disparu de la circulation. Elles se sont perdues, égarées alors. On ne sait pas toujours ce qu'il en est, mais parce que je crois que l'après-baptême est important. C'est important de poser la piété. C'est important de s'attacher à l'Église. C'est important de construire sa relation avec la parole. Quand vous regardez l'apôtre Paul, il est devenu ce qu'il était parce qu'il y avait un appel. Il est devenu ce qu'il était parce qu'il y a une conversion claire et nette. Et quand vous regardez Acte 9, vous voyez qu'il est devenu ce qu'il était parce qu'il a su poser les bases. Il a su tout de suite mettre le bon pli, prendre les bons automatismes. Et souvent, dans les premiers mois, on peut voir ce que va donner la vie chrétienne de certains. Entre celui qui s'attache, qui lit la parole, qui la médite, qui se met au service de Dieu, et celui qui vivote et qui laisse un peu venir les choses. C'est important à ce niveau-là parce que l'objectif, ce n'est pas le baptême, c'est de devenir un disciple de Jésus-Christ. un disciple accompli. Parce que si le salut, il est acquis, il y a quand même une notion de croissance qui vient derrière et dans laquelle il faut rentrer. Et j'appuie sur ce point en parlant sur la notion de baptême. La signification du mot baptiser, ça veut dire quoi? Vous savez tous. Ça veut dire immerger, plonger. Mais en grec, vous avez deux mots. Vous avez le mot bato et le mot baptizo. Vous avez deux mots. Baptizo veut dire immerger et bapto veut dire tremper. Et c'est le mot baptizo qui a été choisi. Ça veut dire immerger. Un physicien et poète grec, Nicander, vers 200 avant Jésus-Christ, montre la différence en parlant de la recette pour faire des conserves au vinaigre. Et il utilise les deux mots. Le légume doit être d'abord plongé, bapto, trempé, dans de l'eau bouillante pendant quelques instants, puis immergé, baptizo, dans le vinaigre de manière permanente. Quand la Bible parle de baptême, elle parle d'une immersion permanente. Alors c'est sûr qu'ici, on ne va pas immerger de manière permanente. Mais, quand nous lisons « Celui qui croit et qui sera baptisé, immergé », il y a cette idée-là. Et c'est souvent dans le contexte où le mot est traduit par « immergé » ou « plongé » ou par « baptisé ». Et je crois que c'est important de réaliser que le baptême, ce n'est pas l'expérience d'un jour, mais c'est un processus. C'est un chemin dans lequel on rentre et on s'engage avec Jésus-Christ. Le baptême, il n'est pas un engagement à prendre à la légère, un engagement quelconque. Vous savez que l'expression « prendre un engagement à la légère », c'est une expression biblique qu'on trouve dans la Bible. D'ailleurs, comme beaucoup d'expressions qu'on a dans le langage courant, on les trouve dans la Bible. Et dans le livre des Proverbes, il est dit que c'est un piège de prendre un engagement à la légère. Dans Luc chapitre 14, au verset 28, Jésus évoque le cas d'une personne qui commencerait à construire une tour et en cours de route ou en cours de construction, elle se rend compte qu'elle n'a pas les moyens de finir et donc elle arrête tout au milieu. Elle arrête le chantier. Et il est question de cette personne, il dit que finalement elle sera décrédibilisée aux yeux de tout le monde. Et quand Jésus parle ainsi, il parle de la vie chrétienne. Il montre que c'est important de bien commencer et qu'il faut quand même bien réaliser que c'est un engagement qui peut conduire et qui conduira à certains renoncements, qui conduit à une consécration, à une vie pour Jésus, à la mise en place d'une vie de piété. Quand je parle de piété, je parle d'une vie centrée sur Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Il est écrit, cette eau, au sujet de l'eau de Noé, du déluge, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous est tous arrivé de signer un contrat à Conforama ou à IKEA, enfin, pour ne pas faire de concurrence, n'importe où. Comment ça se passe? On vous donne le contrat, vous devez remplir l'identité, vous devez signer en bas. Et puis vous regardez au dos. Et là, vous voyez quoi? Des conditions générales écrites en tout petit, illisibles. En plus, vous n'avez pas les lunettes, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez, vous signez. Ça, c'est un peu signé à la légère. C'est un peu s'engager à la légère. Souvent, dans la plupart des cas, il n'y a pas trop de problèmes, mais des fois, on se retrouve coincé pour 4 ou 5 ans, lié avec un crédit ou une situation qui nous embête. Pourquoi? Parce qu'on l'a signé légèrement. Bon, on sait aussi nous faire signer légèrement. Hein, on sait. Vous dites, le monsieur vous dit, vous avez tout le temps pour signer, mais vous comprenez que vous n'avez pas tout le temps. Hein, on se retrouve dans ce genre de situation. Et la différence avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de piège. Lui ne nous trompe pas. Hein. Il est clair et, je veux dire, on a tout à gagner en s'engageant avec Jésus-Christ, bien évidemment. Mais c'est bon quand même de s'engager, de ne pas s'engager à l'égard. Pierre parle de s'engager, parle de l'engagement d'une bonne conscience. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, l'action de Dieu, elle va jusque dans la conscience. La conscience, c'est quoi? Personnellement, je la compare souvent à cette petite boîte noire des avions, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui permet de reprendre toutes les données qu'il y a eu dans le vol, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Ben, notre conscience, c'est un petit peu ça. Elle enregistre tout ce qui se passe à l'intérieur et un jour, elle sera lue. Il nous est dit que Dieu jugera hein, par Jésus-Christ, les actions secrètes des hommes. La conscience, c'est cette petite voix intérieure qui dit, Joël, c'est pas bien ce que tu fais. Alors des fois, on n'aime pas l'entendre. Ça ressemble aussi comme un tribunal intérieur. C'est un petit peu, c'est cette notion de bien et de mal qui est à l'intérieur. Et l'œuvre de Jésus-Christ, elle va jusque-là. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, il purifie la conscience des œuvres mortes. Parce que des fois, on se débat avec sa conscience. Et je dirais, plus la vie est longue, plus on a des souvenirs douloureux dans la conscience. Plus il y a des choses qui peuvent nous hanter. Plus il y a des choses qui peuvent nous accabler. Mais Jésus-Christ, il est capable d'aller en profondeur. Et de la laver, de la réinitialiser, de faire du reset, comme a dit Adrien. Il peut la laver. Et puis là, il la paramètre à nouveau. Il va lui donner des nouvelles pour qu'elle puisse fonctionner autrement. Et l'engagement à suivre Jésus-Christ, c'est l'engagement à écouter son cœur, à écouter sa conscience, à marcher avec sincérité. C'est l'une des conditions qu'on demande. Je crois que ça paraît évident. Si je poursuis mon parallèle avec le mariage, n'est-ce pas l'une des premières choses que l'on va attendre de son conjoint, de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité, c'est indispensable pour la confiance. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas net, il n'y aura jamais de confiance et ça sera difficile d'aimer à un moment donné. Conséquence un petit peu de tout ce que je partage en disant que ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Le baptême des nouveaux-nés n'est pas recevable. J'aurais déjà pu le dire hein, quand j'ai parlé au départ de... Mais là, je le dis là, par rapport à la conscience. Un nouveau-né, sa conscience, elle n'est pas encore formée. Mais je vais plus loin. Ça interroge aussi des fois sur le baptême des enfants de 8, 10 ou 11 ans. Plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des enfants qui ont été baptisés. Dans certains pays, on a tendance à baptiser assez tôt. Pas cité de pays, mais plusieurs fois j'ai été confronté. C'est souvent les mêmes pays où les enfants à 8, 10 ans, où des fois il y a un conflit militaire, alors on baptise rapidement les enfants. Mais la conscience, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle soit aussi finie. Je ne sais pas à quel âge elle est finie, si je peux parler comme ça. Mais on sait très bien qu'un enfant de 8, 10 ans, on peut le manipuler comme on veut hein, et l'influencer. Et c'est délicat. Qu'est-ce que ça vaut? Alors ça n'enlève rien que la foi d'un enfant. Et la conversion d'un enfant peut être authentique, mais au niveau de l'engagement, c'est bien de le faire attendre, autant que la conscience soit finie. Une autre remarque, dans le livre des Actes, on est surpris que de la rapidité avec laquelle les gens se font baptiser. Ça va vite, hein? Et ça donne l'impression même parfois d'un engagement à la légère. C'est vrai que la précipitation, elle rime souvent avec légèreté. Mais ne perdons pas de vue qu'à cette époque, se faire baptiser, on savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire s'exposer à la persécution rapidement. Ça voulait dire être banni. Je dirais l'engagement rapide est comparable à l'engagement que certains vont prendre dans certains pays. Dans notre pays, ça, il n'y a pas de risque à ce niveau-là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important. Et des fois, c'est ça aussi. Bon, après, dans le livre des Actes, on est dans un contexte de démarrage. De réveil, ça va vite, c'est dynamique. Un autre point, le baptême n'est pas un bain. J'évite la liaison. Pierre nous dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Alors c'est une manière de dire, ça veut dire que c'est pas une douche. Quand on lit dans le Nouveau Testament, on comprend qu'il y avait beaucoup de rituels et d'ablations, de lavage de coupe, de lavage de mains au temps de Jésus. Et il y avait tout un enseignement qui était là depuis le début. Et notamment, d'ailleurs, c'était dans un but sanitaire, bien souvent. Ce n'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis très longtemps, en Israël, ils ont des principes et des règles d'hygiène, notamment au niveau du lavage des mains et de toutes ces choses. Mais il y avait du temps de Jésus beaucoup d'ablutions, de lavage. Et c'était pour... Le problème, c'est que on s'était attaché aux formalités extérieures, mais on avait oublié l'essentiel. C'est pourquoi Jésus recadre les choses et dit « Nettoyez l'intérieur plutôt que l'extérieur. » Parce que si tu nettoies l'intérieur, l'extérieur deviendra net. C'est le message que Jésus fait passer. Et le baptême n'est pas un bain, c'est pas le lavement extérieur, mais c'est le signe d'un lavement intérieur. C'est le signe que nos péchés ont été effacés et qu'il n'y a plus rien sur notre conscience, sur notre cœur, Jésus a tout effacé. Ce lavement a été rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et il est devenu effectif le jour où on a dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et j'ai besoin que tu me laves. C'est dans ce sens-là que Pierre conclut son message quand il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés. Et rappelez-vous aussi ce que Ananias dira à Saul de Tarse quand il vient le trouver. Saul de Tarse vient de rencontrer Jésus et il lui dira quoi ? Pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez la notion, le rapprochement entre le baptême et le fait d'être lavé. Mais lavé à l'intérieur, bien évidemment. En partageant tout cela, je termine, hein, mon but est de quoi ? Et déjà, bien sûr, de montrer un petit peu les contours du baptême. Je sais qu'au milieu de nous, des personnes qui hésitent encore à s'engager. Alors, je voudrais dire à certains, si vous désirez vous faire baptiser, il faut d'abord être né de nouveau. Il faut avoir Jésus-Christ comme sauveur. Il faut qu'il ait pardonné vos péchés et qu'il ait cette conviction qu'il n'y a plus de condamnation sur votre vie. Mais pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, qui savent que Jésus est leur sauveur, à un moment donné, il ne faut pas tarder. Il faut s'engager avec lui. Il faut avancer. On ne peut pas rester un peu entre deux eaux, si je peux parler comme ça. Je voudrais aussi, en parlant ainsi, de rappeler les bases et les fondamentaux pour chaque frère et sœur. Ce sont des choses que l'on sait, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Parfois, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je ne me lasse pas de vous répéter ces choses salutaires. » C'est vrai de temps en temps qu'on a toujours besoin de revenir sur les fondamentaux, sur les bases, et c'est bon de se le rappeler. Et puis aussi, en partageant cela, je crois que c'est bien de. Ça permet d'apporter des pistes de réflexion parce qu'il y a des questions qui sont plus difficiles avec le baptême. Et quelque part, en parlant là-dessus, je les avais en tête. Je vous en cite quelques-unes et vous y réfléchirez. Qui peut baptiser aujourd'hui ? Est-ce forcément un pasteur ? Ou est-ce que n'importe qui peut le faire ? Une vraie question aujourd'hui avec Internet. Quand est-ce qu'un baptême est recevable ou n'est pas recevable ? Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où ce n'est pas toujours évident. Autre question, faut-il baptiser rapidement aujourd'hui comme dans le livre des Actes ? Une personne non baptisée peut-elle prendre la scène ? Alors nous, on dit non habituellement, mais c'est bien d'avoir des arguments aussi, parce que ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Vous voyez, toutes ces questions, c'est bien de pouvoir y répondre, c'est bien d'y réfléchir, et dans ce que j'ai partagé, c'était quand même derrière. Je récapitule tout ce que j'ai dit et je termine. Le baptême, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour celui qui a rencontré Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas un acte magique ou un sacrement, mais c'est l'attestation d'une expérience vécue, de quelqu'un qui a expérimenté le salut. Le baptême, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une immersion dans la vie en Jésus-Christ, l'entrée dans un processus pour devenir disciple de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas un engagement à la légère, mais un engagement à suivre Jésus-Christ avec son cœur et avec sa conscience. Et le baptême, ce n'est pas un bain, mais le signe d'un lavement intérieur, celui de nos péchés. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour toute ta parole et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. Et Seigneur, pour celui qui l'a lu, les choses deviennent très vite claires. Merci encore pour toute cette matinée. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour... Parce que tu es clair dans le contrat, tu ne nous trompes pas. Mais c'est bon de s'engager avec toi. Adrien et Laurie ont vraiment fait le bon choix. Ont pris la bonne décision. Et parce que si on s'engage avec toi, on ne perd pas de vue que toi, tu peux t'engager avec nous. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, que ces quelques mots partagés, peut-être maladroitement, puissent faire son œuvre dans le cœur de celui qui ne te connaît pas et qui se pose des questions. Dans le cœur du croyant qui sera en plein doute et qui aurait peut-être oublié le contrat dans lequel il s'est engagé. Et peut-être quelqu'un qui s'interroge dans d'autres domaines. Seigneur, manifeste ta grâce et ta bonté dans le cœur de chacun. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.